Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous au micro de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine consacré donc à l'université, le magazine Campus Lille Info. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est assez rare d'ailleurs dans cette émission, de BTP. Et pas n'importe quel BTP, les chantiers de l'avenir avec ce 4.0 qui vous attend, qui nous attend, qui attend le monde. Pour nous parler de ce thème, j'ai invité M. Zoubeï Lafage, qui est professeur des universités en charge du laboratoire génie civil de Centrale Lille pour ce projet chantier 4.0, donc développé dans notre université de Lille. Très heureux de vous accueillir, Monsieur Lafage.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai dû rater quelques épisodes précédents, puisqu'on est à 4.0 pratiquement bientôt, là, mais j'ai raté le 2, le 3. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans dans les chantiers, de bâtiments publics ?
Donc, d'abord, je me présente. Et merci beaucoup, d'abord, pour votre invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Je suis très heureux d'être avec vous et dans votre radio et avec vous personnellement et dans ce bâtiment parce que j'avais fait mes études, en fait, à l'Université de Lille 1, dans ce bâtiment-là, le bâtiment de mathématiques. Donc, je suis assez heureux d'être ici parmi vous. Je suis professeur des universités à l'École centrale de Lille. Je fais de l'enseignement et de la recherche. Je ne suis pas chef du laboratoire, mais je suis en charge d'un programme de recherche industrielle orientée en fait construction 4.0, industrie 4.0 et ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. En fait, il y a quatre révolutions. Il y a la première révolution industrielle que vous connaissez, c'est basé sur le charbon. La deuxième révolution industrielle qui était principalement basée sur le modèle de Ford, de production en masse. Donc celle-là, elle est assez connue également. Et puis la troisième révolution industrielle, qui est principalement l'automatique et l'électronique. Celle-là, en France et dans tous les domaines en particulier, on avait un peu raté. Et principalement également dans le domaine de la construction, dans le domaine des chantiers, dans le domaine de BTP. Et on est dans l'ère de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle depuis 2010, qui est en plus de l'automatique et de la robotique. Il y a les aspects, en fait, communication, Wi-Fi, Internet, tous ces aspects-là qu'on voit actuellement de nos jours dans notre vie quotidienne. Intelligence artificielle, réalité augmentée, voilà. Donc, on est dans la quatrième révolution industrielle. Et puisque dans le domaine de la construction et dans plusieurs autres domaines, on a raté la troisième révolution industrielle, nous, Centrale Lille, avec plusieurs partenaires industriels, on s'est dit, cette fois-ci, on ne va pas rater la quatrième révolution industrielle. Il va falloir travailler dès maintenant avec des partenaires parce que le mode de travail change. On travaille plus avec des partenariats, en collaboration avec des industriels, avec de gros industriels, avec des PME, avec même des start-up, et dans une notion de partie prenante pour un objectif commun, ne pas rater cette révolution qui est, qu'on la voit actuellement en termes de progression basée principalement sur tout ce qui est digitalisation et tout ce qui est intelligence artificielle.
Alors le fait de n'avoir pas été au top dans la version précédente de ce paramètre, ce logiciel, est-ce que quelque part c'est un gros handicap ou bien est-ce qu'on prend le train en marche et on peut s'adapter à des choses d'avenir ?
C'est sûr que c'est un grand handicap, ce qui nous demande en fait. Déjà, si on prend conscience qu'on a vraiment raté quelque chose, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, la prise de conscience. Quelques-uns, ils ne prennent pas conscience qu'on avait raté en fait une époque assez importante en termes de stratégie, en termes d'investissement. Donc, mais maintenant, puisqu'on est dans la stratégie, on est dans l'investissement en termes de structuration et développement de tout ce qui va se passer dans le domaine de la construction, du chantier jusqu'en fait, du chantier au quartier, à la ville, à la propriété et aux clients in fine, il va falloir travailler double, c'est-à-dire en intégrant aussi l'aspect automatisation et robotisation qui n'a pas été pris en compte au départ.
Quand on dit on va travailler double, est-ce qu'il faudra aussi le double de personnes pour travailler ?
Je ne pense pas qu'il faut avoir le double parce que maintenant, en se basant sur les formations, sur les compétences, sur le savoir et principalement sur les outils. Avec les outils, on peut travailler 3-4 fois par rapport à avant. On a des ordinateurs, on a des machines, on a des rapports, on a des compétences qui sont plus importantes. C'est pas la quantité, c'est la qualité.
Donc,
qui va l'emporter.
Les chantiers ne vont pas être une solution, enfin les chantiers 4.0 au problème du chômage.
C'est une très bonne question. Moi je vois d'abord les chantiers avec plus de qualité, plus de sécurité, moins de pénibilité au niveau du travail, moins de gaspillage de ressources, plus de considération pour l'ouvrier, pour le compagnon, pour l'ingénieur, pour le client également, parce que quand vous vendez quelque chose qui est au-dessus du prix qui devrait être payé, c'est aussi non-respect aussi pour le client. Donc, je ne vois pas le côté, les points positifs sur lesquels nous travaillons et on travaille tous ensemble sont extrêmement importants. L'objectif, ce n'est pas d'éliminer l'ouvrier, c'est l'objectif, ou bien le compagnon. L'objectif, c'est lui donner plus de qualité, plus de responsabilité, plus de considération et surtout plus de sécurité.
Alors, un des grands chantiers, alors c'est pas celui des BTP forcément, c'est un chantier en général, c'est les économies d'énergie, aussi le développement durable. Est-ce que dans ce chantier 4.0, on se prépare à réaliser des gros chantiers d'envergure, des constructions, etc., qui dureront dans le temps, qui sont prévus pour s'améliorer chaque fois, à des contextes qui vont peut-être évoluer? Ou est-ce qu'on travaille sur, par exemple, une ville pour 20 ans ou des choses comme ça?
Oui. La notion de durabilité, elle est extrêmement importante. Chaque fois que moi, je lance un projet de recherche industrielle avec un partenaire, soit public, soit privé, il y a deux volets qui sont importants, la partie environnement et la partie énergie, et la partie, bien sûr, durabilité. L'objectif, c'est de tenir compte des problématiques énergétiques. Et on est dans un cadre national européen extrêmement bien précis. On est aussi dans une philosophie et un système français qui est très clair sur les aspects environnementaux. Donc on est également dans ce cadre-là. Donc tous nos travaux, ils sont dans un cadre national et européen. Donc la notion d'énergie, la notion d'environnement sont vraiment le principal indicateur pour nous. L'objectif, c'est aussi de faire des maisons, des bureaux, des quartiers, des villes durables, mais où le client, où l'usager, où le citoyen puisse être dans des très bonnes conditions en termes de qualité, en termes de coût, en termes de sécurité, en termes de besoins. La société, elle est en train de changer. Vos enfants, mes enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, il va falloir intégrer ces besoins-là.
Donc, vous avez la chance, monsieur Lafage, de voyager beaucoup dans le monde. Est-ce que les problématiques françaises en termes d'habitat, de construction, de grands chantiers, on va dire, sont les mêmes que dans d'autres pays? Et est-ce qu'on peut imaginer que votre savoir-faire se décline d'un pays à l'autre en vous adaptant à des contextes différents?
C'est une excellente question. Il y a une spécificité française, il y a une culture française. Le marché français n'a rien à voir avec le marché belge. Je compare par rapport au marché belge dans le sens de francophonie. Donc on imagine très très bien que le marché français n'a rien à voir avec le marché chinois ou bien le marché américain. Les besoins sont les mêmes. Besoin au logement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit actuellement. Le besoin de qualité également. Et puis il y a autre chose, on a du mal à trouver de compagnons pour travailler. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu observer au Japon. Ils ont le même problème. En Chine, ils ont le même problème. En France, on a le même problème. Pour plusieurs raisons. Donc, il y a une compétitivité sur la qualité du compagnon, le monter en compétence pour le compagnon, quelque chose qui est de plus en plus importante parce que le métier n'attire pas pour venir travailler. Pour plusieurs raisons. Il n'attire pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité, parce qu'il y a des problèmes de salaire, parce qu'il y a des problèmes d'environnement, parce qu'il y a énormément de gaspillage. Donc, il y a deux choses. Ou bien on répond à ces besoins-là en réfléchissant, en travaillant, en prenant en fait les expériences des autres, ou bien on va encore accentuer en fait ces problèmes-là. On est aussi, deuxième chose, on est en face aussi de quelques besoins extrêmement importants au niveau de certains projets internationaux. Certains projets en fait au niveau génie civil ou bien au niveau BTP, ils sont extrêmement complexes, vu qu'il y a de plus en plus de villes avec des tailles assez importantes. Donc ces projets complexes, même si on a une main-d'œuvre ou bien des ingénieurs à bas coût, ce n'est pas suffisant. Il va falloir des machines importantes, capables de faire ces travaux-là. Donc le besoin de robotisation, le besoin d'industrialisation, et quand je parle d'industrialisation dans le sens noble du terme, pour aider l'ouvrier, pour aider le décideur, pour aider aussi le développement des villes. On a besoin de répondre par plusieurs tunnels, des fois, par plusieurs étages, des fois. Et donc, il va falloir répondre en fait, aux besoins de la société. Si on ne met pas en place la technologie adéquate pour répondre au développement des villes, soit au niveau sismique, soit au niveau tsunami, soit au niveau environnemental, soit au niveau transport, on va à la catastrophe. Et la robotisation et l'introduction de la technologie, elle est juste essentielle pour nous tous.
Alors, on a un pays que nous connaissons en commun, c'est la Chine.
Tout à fait.
On y reviendra, j'espère, dans une émission spécialisée.
Dans
ce pays-là, il y a des villes de 30 millions d'habitants. Nous, la plus grande ville en France, c'est 3 millions. Il y a évidemment une échelle très différente. Comment on peut passer de l'un à l'autre quand on voit que ça fonctionne dans des villes de 30 millions d'habitants? Les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est. Quand on y va, on comprend quand même que c'est énorme à gérer. Donc, est-ce que vous intervenez en amont et aussi pendant pour régler les problèmes? C'est-à-dire qu'il y a le concept de la ville et une fois qu'elle est réalisée, voir si tout fonctionne bien, comment on peut modéliser pour ne pas avoir trop de problèmes une fois que c'est lancé le projet?
C'est en fait, quand on va en Chine, cette notion de big data, cette notion de nombre, elle est extrêmement importante. On la voit, ils ont l'habitude de ces aspects-là d'une manière assez importante. Puis on voit les gratte-ciels, puis on voit le mouvement de transport. Puis on voit, en même temps, on voit les problèmes. Puis il y a une culture chinoise, comme il y a une culture allemande, comme il y a aussi une culture française. Il y a une sensibilité, par exemple, à l'environnement en France et à la qualité, elle est extrêmement importante. La relation de l'habitat en France, par exemple, quand vous avez votre maison, cette notion de propriété d'une maison n'a rien à voir avec ce qui se passe par exemple ne serait-ce aux États-Unis. La relation avec son logement n'est pas la même en France qu'aux États-Unis. Ils vendent leur maison rapidement une année et une autre. Par contre, en France, on a une relation quasi unique.
Et affective.
Et affective, qui est liée aussi après au transport, qui est liée aussi à l'emploi, qui est liée aussi à la qualité de la ville, au relationnel. La relation homme logement ou bien femme logement, elle est différente. Du coup, le marché, il est différent. Par contre, en tant que citoyen, en tant qu'usager, en tant qu'utilisateur, le Chinois, il a besoin de qualité. Il a besoin plus d'environnement. Le Français également. Ce qui pose problème, c'est l'industrie de construction. Il faut qu'elle réponde. Il faut qu'elle réponde en fait aux besoins des clients, aux citoyens. C'est ça qui sur le quoi nous travaillons. Par exemple, au niveau de transport aérien. On est dans des standards assez importants qui satisfont à la fois les Chinois, les Américains, les Français, les Tunisiens. Mais au niveau de la construction, cette industrie en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en France, elle n'a pas du tout évolué depuis au moins un siècle. C'est-à-dire qu'il y a un effort d'innovation, un effort de travail sur soi, une manière de se réorganiser, de considérer d'abord les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, mais aussi les clients, aussi l'architecte, et qui est extrêmement importante, c'est sur quoi nous travaillons. Et moi, je travaille sur ces thématiques-là, pour d'abord répondre en fait aux attentes des personnes qui travaillent dans ce milieu-là, parce que j'en viens et je suis passionné par ce milieu, donc je voudrais qu'ils se modernisent, je voudrais qu'ils soient plus performants, je voudrais qu'il y a zéro accident, plus de qualité, plus de satisfaction aux clients, plus professionnel, plus de lean quelque part. Et si on arrive et plus d'emplois, du coup, plus d'emplois, forcément, et du coup, il va répondre en fait aux besoins de la société. On a besoin de grands constructeurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement. On a aussi besoin de PME spécialisées, efficaces, où il y a des aspects innovation, où il y a de l'emploi, où il y a des passionnés par ça. Et en France, comme en Italie, comme dans d'autres pays, on a une histoire avec la construction. On a un lien historique, puis on a des compétences. La France, par exemple, elle est connue au niveau mondial dans le domaine du génie civil, soit en termes de laboratoires de recherche, soit en termes d'enseignement supérieur au niveau recherche. Le génie civil, quand vous dites génie civil, la France, elle est vraiment une des références mondiales et on voudrait maintenir cette référence, cette compétence. Comment on peut la maintenir ? En considérant le passé, mais aussi en se modernisant. Et puis, on a les plus grandes entreprises au niveau mondial. On a, par exemple, Bouygues, on a Vinci, on a plusieurs d'autres. On a Rabot du Tilleul, ici, au niveau de la région. On a Rambry, on a plus... Puis les PME, on a plusieurs. Il faut aussi les aider, en fait, aussi à exporter leurs compétences pour d'autres marchés, en Chine, à Singapour, aux États-Unis, en France, en Afrique, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ainsi de suite.
Alors, certains pays visent la normalisation, pas forcément la banalisation, parce qu'il y a des villes qui sont très belles la nuit et que dans la journée, elles paraissent nulles.
Tout à fait.
Et donc, elles vivent d'une certaine manière davantage visuellement, hein, la nuit que le jour.
Tout à fait.
Et ici, en France, ou dans d'autres pays similaires, on a plutôt la culture de la maison personnelle, personnalisée, voilà, comme vous le disiez, un bel objet dans lequel on se sent bien, mais c'est chez soi, quoi. Et là, l'idée aussi de gens qui doivent se déplacer, c'est parfois intéressant d'avoir des gens qui se retrouvent dans un appartement identique ailleurs. Ils ont changé de lieu, mais en fait, physiquement, c'est quasiment la même structure. Ça se fait dans les hôtels. Des grandes chaînes qui ont cette idée-là. Hein. Je parle même dans la restauration, on retrouve... voilà. Donc voilà, on est dans une industrie quand même. Hein. Vous êtes dans une industrie là, lourde, qui s'adapte à des projets différents, des projets de pays différents, des projets de vie différentes.
Ouais. Complètement. La notion, par exemple, d'architecte, elle est extrêmement importante. C'est l'architecte, il a la vision sociétale et sociale de ce que veut, ce que pourrait, ce que potentiellement le besoin de sa société. Donc on voit des architectures, par exemple, en Chine qui n'ont rien à voir avec les architectures en France, qui n'ont rien à voir également en architecture au Canada et ailleurs. Par exemple, c'est de plus en plus des architectes travaillent. Par exemple, j'ai eu la chance de visiter lors d'une conférence internationale la ville au Canada... du côté de l'ouest, Vancouver, et j'ai quelques collègues qui travaillent à Vancouver. Tout le système d'architecture, même si la nature elle est extrêmement belle, tout le système d'architecture, il est basé sur le fait que je travaille, je loge et j'ai mes loisirs dans le même endroit. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire, Dès qu'ils ont mis en place l'aspect architecture de la ville, ils ont intégré à la fois la notion d'emploi, la notion de loisir et la notion de travail. Et c'est que, bah, par exemple, on peut travailler même dans son appartement et on ne se déplace pas forcément à l'entreprise. On peut avoir, c'est-à-dire, ils ont démocratisé la notion de loisir dans tous les immeubles. C'est-à-dire, dans chaque immeuble, il y a des infrastructures intégrées dans le bâtiment pour les loisirs, soit des loisirs de sport, soit des culturels. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, donc, qui est intégré. Et donc, et cette démocratisation de la culture, des loisirs, du travail dans un espace qui est beau, avec un coût, bien sûr, acceptable, en intégrant la nature, en intégrant en fait les besoins, ben forcément, ce qui fait que cette ville-là, Vancouver, elle est classée parmi régulièrement la plus belle ville du monde où on a envie d'y aller et de vivre.
Alors, on a eu quand même de grands architectes qui ont pensé des choses avec un résultat à définir, mais qui étaient dans le concept intéressant, comme Le Corbusier, par exemple.
Tout à fait.
Lui, il avait intégré dans les grands immeubles des espaces particuliers de vie commune. Voilà. Donc, on était peut-être la version 1.0.
Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Le Corbusier, en fait, j'ai lu en fait ses articles, puis j'ai vu ses œuvres. C'est d'une beauté extrême. C'est d'une conception... j'invite tous les auditeurs à regarder les vidéos, parce qu'on a quelques vidéos sur YouTube où il parle, où il explique comment il a conçu Paris, comment on conçoit la ville de Paris, comment l'histoire elle est importante, comment cette notion de toutes les parties prenantes de la ville, de l'homme, de la femme, des enfants, de l'architecture, de la vision de l'histoire, du présent et de l'avenir, c'est extrêmement intéressant. il était, je pense, un peu en avance par rapport à l'époque, mais on a besoin des gens comme ça.
Voilà. Donc, en avance, évidemment, sur le plan intellectuel, sur le plan architectural, sur le plan, on va dire, social, sociétal ou humain, il peut y avoir parfois, entre la pensée et la réalisation, et surtout la façon dont on vit dans ces ensembles, des décalages.
Complètement. Et ça, c'est valable partout dans tous les domaines. Il y a un prix Nobel de chimie qui a dit 10% l'idée, 90% de pratique. Ce qui compte, c'est vraiment le déploiement, la pratique, la qualité des pratiques à faire. Parce qu'avoir des idées autour d'une table, vous allez trouver 30 000 choses, 30 idées à mettre en place et il n'y a personne qui fait les idées, quoi, qui les pratique. C'est la pratique qui l'emporte, 90%. Et nous, on est en génie civil, dans mon équipe de recherche, qui est principalement, qui travaille sur la robotisation, l'impression 3D, l'industrialisation et la robotisation dans le domaine de la construction. On fait vraiment de la recherche appliquée, applicable et une recherche finalisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la théorie. En plus, on fait de la théorie, mais on insiste beaucoup sur le 90% de déploiement des pratiques sur le terrain.
Donc actuellement, on pense à des problèmes importants dans le monde liés aux modifications climatiques, notamment à des pays qui risquent de se retrouver engloutis, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut penser pour ces pays-là, ou ces îles par exemple, de nouvelles solutions qui permettraient aux gens de survivre? On a des ancêtres qui ont créé des maisons sur pilotis, on pourrait imaginer les pilotis 4.0?
Bah, en fait, au niveau de l'architecture, il y a énormément d'idées. Je vis plusieurs projets, les uns plus beaux que les autres, soit dans la mer, on va dire en dessous de la mer, soit dans les terres. Moi j'ai vu, par exemple, quelque chose qui est fascinant. C'était des grands immeubles où il n'y a pas de fondation. Quand on dit ça, on dit que c'est pas possible, des grands immeubles sans fondation. C'est-à-dire, ce sont des câbles qui tiraient et que le grand bâtiment, il est suspendu. Et ça, c'est possible au niveau théorique. Le seul problème, c'est le coût. Le seul problème, c'est le coût de ce type de matériaux qu'à mettre en place au niveau des câbles qui sont actuellement, qui coûtent énormément cher. Ce sont des solutions qui ont été réfléchies, par exemple, au Japon, parce qu'ils ont un problème d'espace. Ils ont un problème de densité. Et donc, du coup, est-ce qu'on est obligé de faire des fondations? Donc, du coup, quand on a besoin, ben, ça nous oblige en fait à chercher des solutions. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et du coup, nous, en tant que moi, parce que moi, on s'est défini en fait au niveau de notre laboratoire comme un laboratoire de conception et de recherche. Ça veut dire qu'on est obligé de penser à des solutions futures. On regarde le besoin, même en termes d'énergie. Il y a des endroits où on n'a aucune possibilité d'énergie. Donc, on pense à des solutions, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau photovoltaïque, spécifiques à des pays où ils n'ont pas d'espace. Et donc, la notion de taille, elle est extrêmement importante. Et puis, il y a aussi. Vous regardez par exemple Elon Musk qui lance un projet actuellement de tunnel, c'est-à-dire il pense que la ville de demain elle est principalement basée sur plusieurs types de tunnels à l'intérieur où la voiture elle est autonome, mais c'est pas la voiture qui est importante, c'est toute la partie infrastructure souterraine de tunnel en dessous de la ville. Dans certaines villes, par exemple, actuellement, à Hong Kong, il y a, en plus, c'est un groupe français qui fait le creusement tunnel, un bitunnel qui est pour la notion de transport, la notion de mobilité, qui est aussi extrêmement importante. Je pense que de plus en plus, on va en dessous de la terre. Ça, c'est quelque chose que je commence à observer. De plus en plus, on cherche de solutions très originales. Donc, par exemple, les tours suspendues, où il n'y a pas de fondation. En fait, ce sont des innovations qui sont brutales, et je suis assez content parce que ça change, en fait, pour la construction. On a besoin des gens dans l'innovation, on a besoin des gens. D'ailleurs, le doctorant que je recrute actuellement, sur les 5 doctorants, il y en a un seul de formation génie civil. Il y en a un formation mécatronique. Le deuxième, il a une formation d'électronique automatique. Le troisième, il est sur les aspects. Lean construction. Ce sont des choses que de plus en plus, en termes de recrutement, on a besoin des compétences qui ne sont pas forcément génie civil, parce que le problème sur lequel nous travaillons ou nous sommes confrontés, ils sont multidisciplinaires. c'est-à-dire plusieurs disciplines. Ils sont multidimensionnels, c'est-à-dire la partie sociale, elle est pour nous extrêmement importante. La partie économique, elle est assez importante. Et quand je dis la partie sociale, c'est vraiment l'innovation sociale. C'est vraiment, il faut regarder en termes d'innovation. Moi, par exemple, un tiers de mes lectures, ce sont les meilleurs sociologues français, les meilleurs sociologues étrangers qui parlent de cette notion de mobilité de société. Qu'est-ce qu'elle a besoin de la société? Il va falloir en fait avoir une vision globale. Sinon, on peut pas résoudre un problème uniquement au niveau technique. On a besoin de cette vision, de cette stratégie, et puis de travailler autrement. Et ça devient quelque chose d'essentiel.
Alors, vous l'avez dit, Monsieur Lafage, votre projet est aussi soutenu, ou on va dire soutient d'une certaine manière, c'est réciproque, de grandes entreprises internationales dans le milieu du BTP. Et donc, vous avez une partie recherche, développement, quelque part, ou c'est eux qui réalisent?
Alors, en fait, l'idée vient de nous, de Centrale Lille, de moi-même. C'est-à-dire, d'abord, je travaille avec des grands groupes depuis une quinzaine d'années. Et je travaille avec des PME depuis une quinzaine d'années. Je cite par exemple la PME, je travaille avec la Crédit du Nord depuis une quinzaine d'années. Je suis très attaché aux travaux de cette entreprise qui est liée à Aubry, qui est liée au patrimoine de la région. Donc, je continue à travailler avec eux et pour eux. Nous travaillons et donc j'étais voir ces grands groupes pour leur dire maintenant il va falloir structurer en fait nos recherches. Parce que la structuration, elle est importante. Je n'ai pas besoin forcément d'un doctorat ou deux. Il va falloir faire vraiment un programme de recherche complet où il y a l'aspect recherche, où il y a l'aspect industrie, où nous travaillons ensemble pour un objectif vraiment de monter en compétences sur ce que je viens d'expliquer en termes de robotisation, en termes d'automatisation, en termes de lean construction, en termes de digitalisation, en termes aussi une autre manière de voir le client, une autre manière de voir le compagnon avec objectif zéro sécurité, avec un objectif meilleure qualité et des choses comme ça. Donc, nous travaillons ensemble, c'est-à-dire c'est notre type de partenariat qu'on a monté ensemble. C'est, je ne fais pas de la sous-traitance, je fais de la co-traitance, je développe pas pour eux, on fait du co-développement, de co-construction, de co-traitance, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et j'ai la chance, parce qu'il y a une notion de confiance qui a été établie depuis 15 années, soit avec la BDN, soit avec Bouygues, soit avec d'autres groupes, pour que nous travaillions ensemble, parce qu'il y a une prise de conscience, grâce aussi à l'arrivée de certains directeurs généraux ils ont compris qu'il faut forcément investir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas investi, soit sur l'humain, soit sur la recherche, soit sur le développement. Donc voilà, on a bâti ensemble un programme complet de recherche industrielle avec ces grands groupes, avec tous les PME qui vont fonctionner autour. Parce qu'un grand groupe, il n'est pas tout seul. Il y a énormément de PME à côté et puis beaucoup d'ouvriers, beaucoup de compagnons qui sont travaillants. Donc je suis assez fier de travailler pour ça en fait.
Est-ce que dans votre domaine, le BTP, pour résumer, on peut déposer des brevets et qui les dépose?
Alors, tout à fait. Il y a, on en a parlé la semaine dernière sur la notion de brevet. Le brevet, alors, par exemple, mes doctorants, ils sont sensibilisés, ils sont formés pour les aspects brevets. Donc, ils peuvent déposer un brevet. Donc, le brevet, il sera, par exemple, il peut être avec la BDN, Centrale Lille BDN, le doctorant, moi-même, etc. Mais il peut être également avec BIC. Donc, le brevet, il peut être déposé si le doctorant, il participe en fait à l'élaboration des brevets, ben il sera propriétaire aussi de propriété intellectuelle de ces brevets. Mais si le brevet il est fait au niveau de l'entreprise, ben ce sera l'entreprise qui le dépose. Dans notre cas avec ce partenariat, les partenaires industriels nous ont dit parce qu'ils veulent de l'innovation. Et l'innovation vient aussi de doctorants et de directeurs de thèse et de tout le système de recherche qui était bâti depuis des années. Ça veut dire qu'on n'arrive pas maintenant à mettre en place des programmes comme ça si on n'a pas travaillé au moins pendant 15 ans sur ces thématiques-là. Donc les grands groupes, ils sont très intéressés pour faire des brevets ensemble, quoi. Où les aspects, propriété intellectuelle, propriété industrielle, elle est forcément souvent qui va être négociée suivant en fait l'implication et les prorata de chacun.
Alors vous accueillez donc dans votre école des étudiants, des doctorants qui viennent du monde entier. Est-ce qu'on peut aussi, quelque part, valoriser des étudiants qui ont fait des études dans, dans notre région, Hauts-de-France, en les intégrant à des programmes de recherche, notamment dans ce domaine ?
Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'être directeur de relations internationales de l'École centrale de Lille pendant 7 ans. Et j'ai une vision que l'innovation, elle ne peut être que si on est dans une mixité, une diversité culturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je crois beaucoup. Mais il faut quelqu'un qui coordonne tout ça. Il faut un pilotage derrière, en fait. Donc, par exemple, j'aime bien dire les choses clairement. Par exemple, dans mon équipe, j'ai un Marocain de très haut niveau. Formation marocaine, formation française. J'ai un Français du Nord, très grande formation. Il a eu son diplôme de Polytech Lille. Et donc, lui, il vient du Nord, de la France. J'ai une Tunisienne formation mécatronique, de très haut niveau. J'ai une Française qui vient de Strasbourg, qui est docteur en géologie, et qui est également dans mon équipe. J'ai un Éthiopien qui vient d'Éthiopie. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important de l'avoir. J'ai un Malgache, extrêmement innovant, extrêmement original. J'ai un Iranien, formation iranienne, formation française. Vous voyez, ça c'est vraiment le quotidien. Et en plus, j'ai 50% de filles et 50% de garçons dans cette équipe-là. Ouais. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le quotidien. Quand vous traitez un problème de tunnel ou bien quand vous traitez un problème, par exemple, du chantier 4.0, ben vous avez toutes les visions. Dès le départ, parce qu'on travaille en équipe, parce que ce n'est pas forcément facile, hein. C'est très difficile. Mais moi, je préfère les choses difficiles que les choses faciles. Parce que c'est un objectif commun, c'est un travail collaboratif, c'est de la discipline, c'est de l'organisation. C'est aussi des challenges, et puis dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment... On a la vision internationale tout de suite. Et l'aspect innovation, ben, il apparaîtra forcément avec plusieurs ce type de vision.
Alors, on a bien compris la dimension de votre projet. Il est complètement international et en interne aussi, vous avez des ressources internationales. Qu'est-ce qui vous manquerait encore pour aller plus vite, plus loin ?
Alors, j'aime bien plus vite, plus loin parce que je connais la maxime qui dit si on veut aller tout seul, ben, on va plus vite. Si on veut aller plus loin, ben, on va en groupe. Mais si on veut plus vite, plus loin, c'est-à-dire il faut être en groupe, mais avec un groupe ou des individus assez forts. Alors, ce qu'il manquerait, c'est vraiment un coup de pouce. Où toutes les parties prenantes prennent conscience de l'importance de cet embryon, en fait, de ces programmes de recherche. C'est-à-dire le public, le privé, et de travailler ensemble avec le coup de pouce stratégique, le coup de pouce structurel, le coup de pouce ne serait-ce que on est derrière vous, on vous soutient. C'est ça qui manque vraiment. Mais c'est bien parti.
Alors, vos métiers sont assez fantastiques parce que vous avez d'un côté une vision stratégique, forcément, et puis vous avez de l'autre côté un principe de réalité et de confirmation des avancées.
Tout à fait.
Donc c'est un état d'esprit ?
Oui, en fait, j'ai acquis quelque chose que j'adore parce que grâce en fait à l'expérience, hein, tout simplement, et grâce à tous les problèmes que j'ai rencontrés, et grâce à toutes les erreurs que j'ai commises, hein, à un certain âge, quand on prend conscience, on structure, on travaille plus, on met son ego à côté, on travaille avec les autres personnes. J'ai acquis une expérience qu'en France, on aime bien mettre en place des systèmes. Et à l'étranger, en Chine, par exemple aux États-Unis, on aime bien mettre en place des indicateurs, c'est-à-dire des résultats, tout de suite. Et j'ai essayé de combiner les deux, en fait. Je voulais un système avec des résultats. Donc, et c'est ça, donc la notion de pratique, elle est très importante. Donc, j'intègre principalement parce que je suis français, de formation française, et j'ai intégré en fait la culture, soit professionnelle, soit la culture historique. Et puis, je suis en France, et puis j'ai envie que ça marche très très bien pour Lille, pour le système d'enseignement supérieur, et pour la France, et pour l'Europe. Et en même temps, je ne peux pas négliger que la notion d'indicateur, elle est extrêmement importante, donc il va falloir mettre en place. Et puis, je suis dans un cadre international, donc il faut que je l'intègre aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis attaché en fait à la réalité. Et puis, je crois à autre chose, parce que je suis enseignant, je crois à quelque chose qui m'est très cher, que le savoir, il n'est pas forcément dans les bouquins. Par exemple, maintenant, je lis quelques articles scientifiques où, franchement, parfois, je ne trouve rien du tout d'intéressant à lire. On publie facilement des choses simples. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas écrites et qui sont extrêmement importantes. Il y a des personnes qui n'ont pas fait du tout d'études, des techniciens de haut niveau, des ingénieurs, mais ils ont une expérience extraordinaire. Donc, je suis en train toujours de rechercher le savoir qui n'est pas écrit, les compétences qu'ils ont du mal à venir nous voir. Et donc, je suis toujours en train de les chercher personnellement parce que pour moi, le savoir, il est là. De plus en plus, je suis persuadé que le savoir, il n'est pas écrit, qu'il va falloir le chercher. Et pourquoi il n'est pas écrit? Parce qu'il est sur le terrain et dans la réalité. Donc, il va falloir être dans le terrain et dans la réalité.
Alors, actuellement, on voit des tentatives d'essayer que les thèses soient plus ouverte aux personnes qui veulent les utiliser ou comprendre, etc. Est-ce que justement ce que vous venez de dire, ça entre un petit peu en phase avec ça? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont publié. C'est difficile de se procurer les publications parce que c'est cher d'un certain côté. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Et puis il y a toutes ces personnes qui ont des ressources, des compétences qu'on ne connaît pas forcément au départ. On ne les a pas forcément identifiées. Est-ce qu'on peut imaginer aussi de créer un data, des gens qui ont des compétences et quelque part, des gens qui vont les rechercher, les chercher, et puis les mettre à disposition? Est-ce que c'est un nouveau métier, ça, par exemple?
Je rencontre plusieurs personnes qui sont d'un certain âge, avec une grande expérience sur le terrain. Je les invite régulièrement. Et c'est quelque chose qui m'attire, parce que j'apprends énormément. J'apprends énormément d'eux et j'essaye aussi de les introduire, de les ramener dans mon laboratoire, de côtoyer mes doctorants, de sensibiliser aussi mes doctorants à cette partie-là, qu'il faut passer du temps avec les personnes qui ont des expériences, qui sont sur le terrain. On apprend énormément. C'est le bon sens. Le bon sens, il n'est pas donné à tout le monde. Et que c'est des trésors cachés qui sont timides, qu'ils ont peur du nom de centrale parce que c'est quand même une grande école, etc. Il faut mettre son ego à côté, donc on va les chercher. Et avec le bouche à oreille, j'arrive maintenant à créer un écosystème parce que j'ai fait les connaissances de l'un à l'autre, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous donne un exemple de par exemple, vous prenez quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui a une auto-école. Vous dites à cette personne-là, mais comment vous faites en fait? La personne qui apprend en fait le permis, lui, il a énormément de personnes qui rentrent dans sa voiture. Il y a des docteurs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui ont 70 ans, il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études. Lui, son objectif, c'est de faire 20, 30 heures et à la fin, ils ont le permis. Comment il fait? Ce sont des méthodes pédagogiques extrêmement intéressantes qui ne sont pas écrites. Comment on fait pour, on a une diversité des personnes qui arrivent avec des niveaux différents, et avoir un objectif bien déterminé en termes de compétences. Là, dans son cas, lui, c'est conduire une voiture en France, ce n'est pas facile, à Lille. Comment on fait pour, quelle méthode il utilise au niveau pédagogique, quelle est sa démarche? Rien que cet aspect pédagogique, pour moi, il est extrêmement intéressant. Et donc, c'est quelque chose, j'essaye de discuter avec lui, d'échanger avec lui pour prendre ses compétences. Je ne parle pas de savoir, il a forcément des savoirs, mais les compétences pour pouvoir... J'ai plusieurs divers masters, j'ai des DUT, j'ai des masters, j'ai des gens qui viennent de plusieurs filières. Comment j'arrive à la fin, uniquement au niveau pédagogie, au niveau méthode, de faire sortir des gens de haut niveau? Et ça, c'est vraiment... ce n'est pas écrit.
Alors, M. Zoubaï Lafage, l'humanité a donc un patrimoine qui est encore à découvrir, sinon à préserver.
Complètement. Complètement, complètement. Vous savez, on sait plus ce qui se passe sur la Lune que ce qu'il y a dans le cerveau. Donc il y a énormément de savoir, énormément de compétences et insoupçonnables. Moi, ce que je conseille, c'est de toujours rester ouvert, respecter l'autre. Ça, c'est cette notion, elle est extrêmement importante. Il faut plus écouter que parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Considérer la personne pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il puisse parler. Partir du principe qu'il est forcément compétent, il a du savoir. Et essayer de retrouver en fait ses points forts en fait. Et il faut tout le temps pour réussir, et c'est le truc le plus difficile, c'est mettre son ego à côté.
Voilà quelques bons principes. Alors, ce que j'ai bien entendu, c'est que dans vos domaines, hein, du BTP, etc., chacun doit apporter sa pierre à l'édifice.
Complètement, et les compagnons en premier, les techniciens, ceux qui sont dans le bureau d'études, ceux qui sont dans le chantier, le grutier, ceux qui font des briques, les maçons, et ainsi de suite.
Merci beaucoup, M. Lafave.
C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.